C'est pas inutile de reprendre les béatitudes. Pourquoi? Parce que c'est aussi cette proclamation que Jésus a fait sur la montagne lorsqu'il s'est assis. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Et dans Matthieu, c'est très très long, hein, ce sermon sur la montagne qui est relaté sur plusieurs chapitres. Hein, et à la fin de ce sermon, on voit que Jésus rentre dans les miracles, les prodiges et son ministère. Mais il l'enseigne d'abord. Et j'ai senti que si on allait entrer dans une nouvelle dimension missionnelle de l'Église, eh bien, on va forcément être exposé aussi aux difficultés du témoignage. On avait déjà en son temps ici fait de l'évangélisation. Parce que là, c'est un peu différent. C'est l'évangélisation missionnelle va chercher dans la transformation de la culture. Donc, c'était des enjeux qu'il faudra relever. Et avant de voir des miracles, des prodiges, il faut qu'on soit enseigné. Donc, l'enseignement de Jésus, qui est celui du verset 13, hein, comme je l'ai souligné la semaine passée, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, et si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne peut être, la ville ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ça, c'est la fin des 9 béatitudes par lesquelles la parole commence dans Matthieu. Ces béatitudes sont reprises dans Luc. Voilà. Sauf que Luc, il ne cite pas les 9. Il en cite qui sont les mêmes, mais pas les 9. Donc on prend plutôt Luc que Matthieu parce qu'elles sont plus complètes. Vous savez que Luc, il était juif et il s'adressait aux juifs. C'est pour ça qu'il parle du royaume des cieux et pas de Dieu, parce que Dieu, on ne doit pas le... Merci de corriger, Matthieu. Il parle du royaume des cieux et pas du royaume de Dieu parce qu'il respecte la culture juive qui ne prononce pas le nom de Dieu. Mais voilà, en l'occurrence ici, Matthieu a voulu relater la totalité de ce qu'il s'est approprié et de ce qu'il rappelait de ce que Jésus a enseigné aux disciples. Je viens de lire ça, donc je passe. J'aurais pu le projeter, mais vous avez Matthieu 5, 13. Et nous arrivons à la deuxième béatitude. La première que nous avons vue la semaine passée, c'est heureux. Mais j'applique maintenant ce que je vous ai enseigné, et Chouraki traduit par en marche. Et pour être voilà chouraquicien et puis second voilà on peut dire en marche les bienheureux. Au lieu de dire bienheureux ou heureux, on peut mettre en marche les bienheureux. Ça traduit vraiment la pensée qui est celle de la parole. En marche les bienheureux. C'est-à-dire que pour servir le Seigneur, c'est pas juste être assis sur des chaises. Et c'est ça qui va changer dans les 20 ans qui viennent, dans cette génération. On va certainement être moins assis sur des chaises, ce qu'on appelle l'église traditionnelle que nous étions, et peut-être plus être en mouvement, en marche, y compris dans des rassemblements comme celui-ci. Alors, je n'anticipe pas sur ce qui va être fait, mais en tout cas, on sera plus en marche, bienheureux, pour porter les valeurs du royaume au travers de ces béatitudes. Alors, la première, c'est heureux les pauvres en esprit. Je vous ai dit que c'est pas, voilà, qu'il faut qu'on devienne des débiles mentaux, mais que, eh bien, on reçoive la parole telle qu'elle est et dans la simplicité pour pouvoir la mettre en pratique dans la foi. Deuxième béatitude, en marche les bienheureux qui mènent deuil, car ils seront consolés. Alors, on va voir cette notion de deuil. Dans Luc, alors Luc, chapitre 6, verset 21, signale aussi cette béatitude et il dit « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Voilà, il le dit autrement, « Menez deuil ou pleurez. » Voilà, souvent dans le deuil, on pleure. Voilà. Donc ce n'est pas du tout contradictoire, c'est complémentaire. « Car vous serez dans la joie. » Et Matthieu dit « Car ce sont eux qui seront consolés. » Après la consolation, c'est la joie. Je reviens sur un thème qui va revenir, c'est que Jésus s'est adressé au moment où il a parlé, contextuellement, à un peuple juif qui était un reste, parce que vous savez que c'est le peuple juif de son époque qu'il a crucifié. Donc il n'avait pas que des partisans, il avait des personnes qui voulaient sa mort, et les juifs en particulier. Et les disciples même, jusqu'à la fin, ils n'ont pas compris pourquoi Jésus était venu, alors que Jésus n'arrêtait pas de leur dire que son orientation, c'était la croix. Et même Pierre lui dit, « Seigneur, ça ne t'arrivera pas, tu ne vas pas mourir. » Et Jésus a dû dire, « Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. » Vous voyez comme quoi on peut être utilisé aussi par Satan, et même quand on s'appelle Pierre. Et Pierre a dû avoir une relation d'aide à la fin qui nous est relaté, où Jésus a dû lui poser trois fois la question, « Pierre, m'aimes-tu ?» Et dans cette relation d'aide, hein, « Pierre, m'aimes-tu ?» Pierre a avoué la fin, « Seigneur, mes paroles ne valent rien, tu sais que je t'aime. » Voilà, c'est une capitulation de notre capacité de volonté et de personne en disant, « Seigneur, je suis une offrande entre tes mains, fais ce que tu veux. » Voilà, ça c'est la conclusion de Pierre qui, lui, était rempli de fougue et prêt à donner sa vie pour Jésus, etc. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas parce que nous sommes charnels. Donc, Jésus s'adresse au peuple juif fidèle. Rappelez-vous que Siméon a reconnu Jésus puisqu'il attendait et l'a présenté au temple. Que Nicodème aussi a fait la démarche. Donc, il y avait un reste de juifs qui ont reconnu Jésus, mais ce n'était pas la totalité du peuple. Et il s'adressait aussi à l'embryon de l'Église qui étaient les disciples, puisqu'il a formé les 12 disciples qui ont été à l'origine de toute l'Église que nous connaissons aujourd'hui. Donc Jésus a parlé au reste juif, du peuple juif, et à l'embryon de l'Église. Et je propose d'interpréter, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, qu'à la fin des temps, il en sera de même. Et on arrive à la fin, je ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir, mais on arrive à la fin, et à la fin, ce qu'on appelle la tribulation, on voit que le peuple juif, le reste du peuple juif, va crier à Dieu parce qu'ils verront celui qu'ils ont percé. Mais ça aussi, c'est un reste. Et probablement que les chrétiens seront un reste également, parce que l'apôtre Paul dit, est-ce que à la fin, il n'y aura pas une grande séduction sur les chrétiens? Est-ce qu'il restera des chrétiens fidèles? Donc vous voyez, on se retrouve un peu dans la même situation que du temps de Jésus à la fin. Je ferme la parenthèse. Donc il y a beaucoup de fidèles juifs des temps de la fin qui tomberont sous les coups de l'Antichrist dans la grande tribulation et dans le temps actuel. Aucun d'entre nous ne peut traverser la vie sans connaître le deuil. La mort fait partie de notre humanité, pécheresse. Et Dieu comprend notre douleur lorsqu'un proche nous quitte. Il partage notre douleur. Jésus a pleuré lorsque Lazare était mort. Ce n'est pas faire preuve d'un manque de spiritualité que de pleurer ou d'avoir du mal à surmonter le deuil. Mais là, j'aimerais nous donner des clés. Le croyant dans le deuil possède trois grandes ressources, comme trois piliers sur lesquels repose sa foi. Premièrement, Jésus était empathique. Jésus a manifesté son empathie. Cela se voit dans la scène de Béthanie, que j'ai citée tout à l'heure, où Jésus pleure. Jésus pleura, est-il dit. Il est empathique avec nous. Il est capable de nous comprendre maintenant dans notre souffrance, je vous renvoie à Hébreux 4, 14, il nous comprend et il prend part à notre souffrance. La deuxième pilier, c'est la résurrection de Jésus. Vous voyez, quand tout semblait perdu, la preuve c'est que même à la croix, tous les disciples sont dispersés, à part sa mère, Jean et quelques-uns. Quand tout semblait perdu, quand la mort avait même atteint le Fils de Dieu qui est mort à la croix, Dieu qui est venu dans l'humanité au travers de Christ, bah Dieu a manifesté sa puissance. Sa puissance en le tirant de la mort et en lui redonnant la vie, et pas n'importe quelle vie, c'est la vie éternelle. Montrant ainsi qu'il était supérieur à cette conséquence du péché qui est la mort. La résurrection a montré que Dieu était à l'origine même de la vie tout au départ et de la vie éternelle qu'il a donnée à Christ et que nous hériterons avec lui. Vous voyez, le matin de Pâques, cette lumière qu'on fête régulièrement tous les ans, le matin de Pâques éclaire nos sombres deuils, nous montre que ce qui paraît définitif, la mort, ce qui paraît définitif, eh bien, c'est juste un passage, c'est un temps voilà, où nous allons retrouver les nôtres par la suite. La troisième pilier, c'est la venue de Jésus. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, il est écrit « Le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » C'est-à-dire ces bien-aimés qui appartiennent à Christ et que nous pleurons, ressusciteront. Ils ressusciteront, ils auront la vie éternelle. Ainsi, nous sommes consolés à leur sujet, voyez-vous. Ça fait partie de quand on mène le deuil et qu'on se rappelle ça, eh bien, la consolation vient en se rappelant qu'on les verra, qu'on les verra. Tous ceux d'entre vous qui ont mené deuil avec des personnes en Christ, eh bien, vous les reverrez. Leur corps que nous avons enseveli, même s'il est en poussière, va être transformé. Et nous-mêmes serons transformés en un instant avec des corps de résurrection. Et nous serons réunis avec eux dans une nouvelle communauté impérissable. Amen. Amen. C'est fantastique ça. Ouais. Rien dans le monde, aucune philosophie, aucune religion ne propose ça. Donc c'est un cadeau que nous avons et que nous chérissons. Si on veut l'appliquer maintenant, cette béatitude à la pandémie, hein, pour rester un peu avec notre temps, qui a été terrible, qui a entraîné beaucoup de deuil dans nos familles. J'ai appris par Jacques Baudéré qu'à Mulhouse, il y a eu 43 morts dans une seule assemblée du Covid. Et que ça frappe aussi les chrétiens. Ils étaient les premiers à être pointés du doigt, comme si c'était eux qui étaient responsables en France de l'entrée de la Covid. Maintenant, ça a disparu, tout ça. Mais bon, il fallait... Moi, je me mets à la place de ce maître Peter Schmidt. Ça n'a pas été évident, il l'a dit. Avec des menaces de mort aussi. Donc, la pandémie a entraîné beaucoup de deuil, de souffrance, de pleurs. Mais nous pouvons pleurer aussi pour d'autres raisons. Ne serait-ce que parce que nous voyons des hommes, voire nos propres enfants, se détourner de Dieu. Je suis toujours frappé, surtout Michel, de voir qu'il y a des parents qui voient des enfants qui ne viennent pas à Dieu, voilà, qui disent bon, ils sont gentils, okay, mais qui ne sont pas atterrés jusqu'à la prière, jusqu'à ce qu'ils voient leurs enfants venir au Seigneur. On peut aussi mener d'aide dans une situation de crise, des pleurs, dans passe des crises, où nous ne voyons pas d'issue favorable, que ce soit l'échec voilà, d'un projet qu'on avait pensé, ou même la mort. Alors, j'aimerais prendre un passage d'Ézéchias, que vous connaissez bien, qui se trouve dans 2 Chroniques 32, verset 17. Voilà. Alors, ce passage d'Ézéchias, je ne vais pas tout le lire, hein, mais juste pour vous rappeler que là, Israël était dans une position très très difficile, en tout cas Jérusalem, puisque le roi d'Assyrie avait déjà fait la razzia sur le nord d'Israël. Et là, il entoure Jérusalem. Il entoure Jérusalem et voilà, il trouve une résistance à Jérusalem parce qu'ils sont derrière les murs. Et là, il y a toutes sortes de stratagèmes qui sont très intéressants dans le combat spirituel que nous avons chacun d'entre nous, de voir qu'il y a des stratagèmes absolument sournois de la part de l'ennemi qui s'appelle Sanchérib. Et il reçoit une lettre insultante de Sanchérib qui dit, en conclusion, si vous lisez ces passages, leur Dieu ne délivrera pas son peuple de ma main, sa main. Sa main qui détruit tout, qui radie tout, voilà. Il se sentait supérieur à tout le monde à cette époque-là. Vous savez, c'est le principe de ceux qui conduisent des empires. Rien ne résiste à leur envahissement. Et là, cette lettre était insultante, bien sûr, pour le Dieu d'Israël, en disant, ce peuple, il va périr comme tous les autres peuples que j'ai déjà massacrés et soumis, et ce sera aussi. Mais là, il s'est adressé au Dieu d'Israël. Il n'a pas eu peur de faire une lettre insultante au Dieu d'Israël. Alors nous vivons parfois des temps de crise où ces crises sont diverses. Elles peuvent être liées à la perte d'un emploi, à la crise d'identité, un deuil dans la famille, une crise conjugale, un conflit insurmontable, etc. Et quand l'épreuve est là et qu'elle occupe toutes nos pensées et habite notre quotidien, que faire? Alors j'aimerais vous amener à réfléchir que faire hein, dans ces situations-là pour en sortir comme Ézéchias en est sorti, puisqu'ils ont été délivrés miraculeusement. J'en arriverai à la fin de cette tension avec Sanchérib. Rappelons qu'Israël est devenu roi à l'âge de 25 ans. Il était très jeune, hein, Ézéchias. Ézéchias, donc, avait 25 ans. Et la 14e année de son règne sur Juda, le roi d'Assyrie, après avoir conquis les villes fortes de Juda, assiège Jérusalem, la capitale du royaume. Il envoie ses officiers supérieurs narguer les soldats israélites qui gardent la muraille. Il n'y a rien de plus terrible que vous êtes nargué par l'ennemi. Hein. Les pires moqueries sont adressées à ses défenseurs d'une ville en souffrance, qui était voilà, prise par la faim, etc., mais qui ne pouvait plus sortir. Et leur foi en Dieu est raillée. Un marché odieux leur est proposé et le roi est calomnié. L'officier supérieur de l'armée assyrienne remet une lettre à l'attention d'Ézéchias. Alors que sa ville est assiégée, que son peuple est soumis aux invectives de ce roi d'Assyrie et ses messagers, et que la situation est précaire à l'intérieur, hein, on commence à avoir faim, on n'a plus d'approvisionnement. Que va faire ce souverain poussé dans ses derniers retranchements? Et c'est là qu'on va apprendre aussi de cette situation. Alors, faut aller des chroniques dans les rois, parce qu'on trouve souvent un complément de l'histoire, et c'est le cas ici. Donc, je vous envoie sur roi, pardon. Je vais aller trop vite. Voilà. Je vous envoie vers un autre passage qui s'appelle la prière d'Ézéchias. C'est dans 2 Rois, chapitre 19, versets 15 à 19, qui voilà, complète ce que je viens de dire, ou voilà, où les chroniques, hein, c'est des histoires racontées, et le roi, c'est aussi l'histoire des rois d'Israël. Alors, Ézéchias va se saisir de la lettre de blasphème qu'il a reçue du roi d'Assyrie, et la lire devant tout le monde. De même que les dieux et les nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main, ce qui est écrit. Une fois la lettre lue, il se rend au temple et il présente la lettre à l'Éternel, nous est-il dit. Et voilà déjà une démarche exemplaire que nous pouvons retenir pour nous. En situation de crise, il faut prendre le temps de chercher l'Éternel. Il ne faut pas s'affoler, il faut dire Seigneur, je ne comprends pas, je suis assiégé, etc. Imaginez un roi à 25 ans, il monte sur le trône et Si l'ennemi rentre, c'est fini, lui, Israël, tout. Et dans la présence de son Dieu, Ézéchias prie. Il prie. La prière est capitale. Observons-le. Observons cette prière. Alors, je ne l'ai pas projetée pour que vous écoutiez bien. Je lis la prière que Ézéchias a fait dans le temple, dans 2 Rois 19, 15 à 19. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshaké pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, et ils les ont réduits à néant. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Ce n'est pas une prière de 3 heures, mais c'est une prière de conviction d'un roi qui nous donne un modèle de prière comme Jésus a donné un modèle de prière dans le Notre Père. Tout d'abord, il rappelle la grandeur de Dieu. Et quand on est en situation difficile, c'est très important de rappeler, de nous rappeler à nous-mêmes, parce que voilà, on est humain et puis voilà, on est un peu érodé par toutes sortes de choses. Se rappeler de la grandeur de Dieu. Rappelez-vous le passage de la mer Rouge, le cantique de Myriam. Eh bien, tout ça s'est repris dans le culte d'Israël depuis les temps immémoriaux, depuis cette époque-là, pour se rappeler que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu peut toutes choses. Et avant de se précipiter pour évoquer le problème devant Dieu, eh bien, Ézéchias prend de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur. Quand on est dans les problèmes, quand on est dans toutes sortes de choses qui sont subjectives, moi, j'ai du mal avec moi, mais j'ai du mal avec les autres, de cette subjectivité. C'est bien de ressentir des choses, mais ce qui est important, c'est l'objectivité de la réalité de Dieu, qui, lui, est aussi sujet. Mais nous, il est objectif par rapport à nous. C'est une objectivité par rapport à nous. Donc, il faut qu'on sorte de notre subjectivité pour venir à Dieu, qui, lui, objectivement existe avant que nous, on existe et qui est notre créateur. Vous voyez, il faut parfois se raisonner un peu en disant, attends, mon subjectivité, ok, mais je la relativise. Là, il a mis de côté sa subjectivité, sa peur, son angoisse, son voilà, il s'est déjà passé ça dans le passé, ça va revenir, etc. Non, il prend de la hauteur et il élève la grandeur de Dieu. Il réaffirme, c'est très important, la position d'autorité de Dieu. Il siège au-dessus des chérubins, dit-il. Il ne change pas. Il est l'Éternel, celui qui est le même. Il est le vrai Dieu, c'est toi le seul vrai Dieu, dit-il. Il est le Créateur, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Nos circonstances peuvent nous écraser. Mais notre foi peut parfois sembler bien petite devant la grandeur de Dieu qui nous dépasse. Toutefois, ce ne sont ni nos circonstances, ni notre foi qui sont importantes. Mais c'est Dieu. Et vous le dites, et vous le savez. Mais dans ces cas-là, il faut se le dire et se le rappeler et le dire devant Dieu. Au plus fort de l'épreuve, rappeler la grandeur de Dieu est bienfaisant. Et nos yeux se détournent ainsi de notre problème pour nous tourner vers celui qui peut s'en charger. Amen. C'est tout simple, mais c'est difficile, surtout quand on est dans une épreuve. Alors, après avoir rempli la grandeur de celui à qui il s'adresse, Ézéchias demande à Dieu d'incliner son oreille et d'écouter. On dit c'est étonnant parce que dire à Dieu écoute, On ne peut pas trouver une meilleure écoute que celle de Dieu. Mais vous voyez, ça prouve qu'Ézéchias, voilà, il veut maintenant que Dieu fasse attention à ce que lui va dire, une fois qu'il a déclaré la grandeur de Dieu. Et une simple écoute serait insuffisante. C'est pourquoi Ézéchias demande le regard de Dieu. Il ne demande pas simplement d'écouter, mais dit « regarde à Dieu ». Voilà comment il s'adresse à Dieu. Écoute et regarde. Et alors Ézéchias, il dresse un bilan de la situation. Les paroles du roi d'Assyrie, délivrées par son officier supérieur, et les insultes proférées à l'encontre du Dieu d'Israël. Bien conscient du poids de son adversaire, Ézéchias rappelle encore les hauts faits d'armes des Assyriens, qu'ils écrasent tout sur leur passage, qu'ils sont terribles, etc. Les rois d'Assyrie ont subjugué plusieurs nations, dit-il, et leur territoire. Cet envahisseur est brutal, mais également impie, puisqu'il a aussi détruit les dieux des nations vaincues. D'un point de vue humain, la situation d'Ézéchias est perdue. Perdue. Il sait que, avec tout ce déferlement de puissance de cette armée syrienne, ils ne sont rien. Ils sont un petit truc. Jérusalem, c'est rien. Rien pour ce qui a déjà été rasé du passé. La capitale de son royaume est assiégée. Et pour une nation aussi violente qui peut faire valoir de nombreuses victoires à son actif, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Humainement, c'est foutu. Alors, n'est-il pas dans nos temps de crise que nous avons tous à différents moments ou de tant de difficultés, les problèmes auxquels on fait face, on pense qu'ils sont insolubles. Et ils le sont, souvent, de manière tout à fait logique. Et il est bon de les exposer à Dieu, avec précision, comme le fait Ézéchias, et ne rien cacher de notre perplexité. Je me rappelle quand je suis sorti frais moulu de l'école, je m'attendais à ce qu'on me donne un travail intéressant. Bon, on ne me l'a pas donné. Et au bout de 7 ans, j'ai dit à Michel, c'est fini, je quitte ce travail et je vais ailleurs. Puisque je ne vois pas pourquoi j'ai étudié autant d'années et qu'on n'exploite pas ces dons. Et j'ai écrit, le Seigneur m'a conduit à écrire à un ami de mon père, qui était un ami de la guerre et qui était un grand directeur de l'aérospatial à Châtillon. Je lui écris, voilà, qu'est-ce que vous pensez de sortir, parce que l'aérospatial, même si vous êtes le grand président général, ça ne me donne rien. Il m'a écrit une longue lettre en disant, restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes. Pour moi, c'est une réponse de Dieu. Je ne voulais absolument pas cette réponse. Que ma carrière était bouchée. Et vous savez ce qui s'est passé? Quelques jours après, il y a un des grands patrons des Mureaux qui m'a appelé en disant « Cette nuit, j'étais réveillé, 4 heures du matin. J'ai pas pu dormir. Et j'ai dû mettre sur un organigramme votre nom. Et je pouvais pas faire autrement et je vous appelle. » Je suis sorti de nulle part au fond d'un bureau. Voilà. Et il m'appelle pour dire « Je vous donne cette place. » Wow. De 4, je suis passé à 200 personnes à diriger. Miracle. Impossible, bouché, tout, et puis voilà. Quand Dieu agit, c'est comme ça, c'est un miracle. Voilà, et puis après, j'ai pu m'éclater tellement bien que voilà, je suis passionné de fabriquer les satellites ou les fusées comme je l'ai fait. Alors, quelles leçons tirer de cette histoire ? D'Ézéchias. Eh bien, cette prière que Ézéchias a faite, c'est une prière en temps de crise. Il est remarquable qu'à la suite de cette supplication, Dieu a fait savoir par le prophète Ésaïe, donc 2 Rois 19-20, qu'elle avait été entendue. Déjà, c'est énorme. Le prophète dit, Dieu a entendu cette prière. Oh, quel réconfort, quelqu'un qui aime Dieu. Daniel, c'est pareil. Dieu a envoyé un messager en disant « Ta prière a été entendue, mais il fallait 21 jours, etc. » Vous voyez ? Ben oui, il y a des combats. Mais ce qui est important, c'est qu'on sache que Dieu entend nos prières et Dieu entend ta prière. Dieu entend nos prières. Dieu a fait savoir par Ésaïe lui-même, ce grand prophète, Dieu a entendu ta prière. Et le Tout-Puissant sait aussi se pencher sur notre misère et notre petite difficulté. Vous savez, c'est très catholique, vous l'avez peut-être expérimenté, vous dites, bah oui, prie, il dit, non, mais moi je suis rien, il faut prier pour le monde, c'est tellement terrible, machin, etc. Mais moi non, Dieu ne veut pas entendre, etc. Bon, ça c'est les misérabilistes catholiques parce qu'ils n'ont pas compris. Non, mes amis, Dieu entend la petite prière, le petit problème, voilà, c'est l'authenticité de notre relation avec Dieu. Et par le moyen de son ange, écoutez bien, par le moyen de son ange, l'Éternel a frappé 185 000 hommes. Vous voyez ? C'est ça le miracle. Ézéchias a fait confiance, il a su que l'Éternel avait entendu, il était dans la foi. Et vous voyez, c'est un enchaînement. Quand on est dans la foi, Dieu intervient. Quand Jésus a dit au centenier, « Va, ton enfant est guéri. » Sa foi a permis que la guérison se fasse sans qu'il réclame que Jésus vienne chez lui. Il a dit, je n'ai pas vu en Israël une aussi grande foi que dans cet homme qui n'a pas réclamé à Jésus de venir. Ouais, peut-être ça m'a rassuré. Si t'es là, t'as la puissance qui sort de toi, machin, etc. Non. La foi, c'est de croire que Dieu est puissant et que quand il a entendu nos prières, il va agir. Attendez dans la paix. Soyez dans la paix, et Dieu va agir. Amen. La réponse de l'Éternel était positive à cette prière. Alors, je voudrais juste relativiser un peu ce que je dis, hein, parce que sinon, vous allez penser que Dieu exauce toutes les prières. Bien sûr, c'est un modèle, comme le Notre Père, nous devons prier de cette manière-là, mais Dieu exauce-t-il toujours nos prières ? Ça, c'est une question que je mets sur la table. Ce que je voudrais dire, c'est que Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Ok ? Et là, il choisit de sauver la ville à cause de son nom, parce que Israël a rayé de la carte, non, il n'a pas décidé, alors qu'il a laissé les Romains le faire, mais après c'est le diaspora. Mais là, il a choisi de sauver la ville de son serviteur David, et c'est marqué dans 2 Rois 19:34. Et dans sa souveraineté, Dieu est souverain, il lui appartient de répondre à nos demandes de la meilleure manière qu'il jugera lui la meilleure. Amen. Nous, on reste à sa disposition, on reste serviteur. Parfois, il répond tout de suite, comme c'est le cas, parfois, il répond plus tard, parfois, il ne répond pas. Voilà, mais ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'être des serviteurs qui glorifie son nom, comme Ézéchias l'a fait. Et Dieu, il est Dieu, laissons-le faire Dieu. Et dans certaines situations, il intervient tout de suite, ou pas, etc. Voilà, j'aimerais terminer là, parce que je ne vais pas entamer la troisième béatitude, qui est en marche, les bienheureux, les débonnaires. On va voir ça dimanche prochain. Je pense qu'il est important que nous laissions le Seigneur nous interpeller. Et revenir à, voilà, à ce que ces béatitudes ont comme message pour nous, levons-nous, debout, en marche. C'est pas être des bienheureux qui jouent de la harpe sur un nuage pour passer le temps en attendant que Jésus revienne. Non, il faut se lever, bienheureux, en marche. Amen. Vous voulez marcher ? Vous voulez mettre debout ? Tiens, faisons-le. Ceux qui veulent. Si vous voulez suivre ça, on peut le manifester en se levant. Je vais prier. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester assis. Mais je pense que c'est le temps où Dieu nous dit, levons-nous, marchons avec les valeurs du royaume. Ne restons pas renfermés sur nous. Il y a des gens qui se perdent. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile. On rentre dans un nouvel appel. Tant qu'Église, eh bien, levons-nous. Levons-nous. Et durant cette nouvelle année qu'on va évoquer cet après-midi, on va surmonter le deuil. On va surmonter la souffrance. On va surmonter les larmes. On va surmonter les crises en restant Débonnaire, c'est le deuxième que j'ai pas abordé ce matin, en restant plein de bonté, plein de douceur, en toutes circonstances. Amen. Amen. Mais en laissant Dieu faire, parce que c'est lui qui conduit son Église. Seigneur, tu vois que nous sommes debout, parce que tu as dit en marche bienheureux, et nous ne pouvons pas marcher en restant assis. Donc voilà, nous voulons mettre, Seigneur, voilà, en activité ce que tu nous apprends, et Seigneur, dire nous sommes prêts, conduis-nous, nous sommes tes serviteurs, nous sommes l'Église qui veut te servir. Alors Seigneur, tous ensemble, nous sommes prêts. Conduis-nous, dirige-nous durant ces années qui viennent, afin que cette ville soit touchée, afin que cette communauté urbaine soit touchée, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié, comme dans cette prière d'Ézéchias, il a dit, Seigneur, fais-le pour ta gloire. Si tu veux que Jérusalem reste ta ville, eh bien c'est toi qui vas te glorifier. C'est ce qu'il a fait. 185 000 anges. Qui sont morts par des anges qui ont été envoyés. Seigneur, tu es toujours le même, et nous te remercions pour ta souveraineté, nous te remercions parce que tu nous conduis dans ta présence, et nous te disons merci, et merci déjà de ce que nous voyons, tous les fruits qui vont venir pour ta gloire, au nom de Jésus. Nous te prions. Amen. Amen. Amen.